Et nous allons redémarrer avec votre seconde remarque.
Non, la deuxième partie de la question, elle s'adresse à vous, madame et à monsieur. C'est sur le même sujet de l'aspect sociologique du tourisme. J'entends beaucoup de vous avez développé, et puis la question a été posée, de se poser la question de savoir pourquoi il y a peut-être une désaffection pour le ski, il y a peut-être moins d'intérêt pour la montagne. Et donc, finalement, votre concurrence, c'est quoi ? La concurrence, c'est les loisirs de bord de mer. Je parle toujours un peu en loisirs de masse, là, quelque part, pas en loisirs d'élite, parce que ça concerne que l'élite, effectivement. Donc, en loisirs de masse, les vacances à la mer sont beaucoup plus prisées. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que quand on va au bord de la mer, moi, quand j'allais au bord de la mer, que j'avais 15 ans ou 18 ans, d'abord, on y trouvait beaucoup plus de jeunes filles qu'à la montagne. Enfin, juste entre parenthèses, c'est important. Si. C'était quand même un lieu de drague qui était quand même beaucoup plus prisé que les randonnées. Non, mais ça a l'air de rien. Mais aujourd'hui, par contre, 40 ou 50 ans plus tard, aujourd'hui, quand vous allez en vacances au bord de la mer, il n'y a personne sur la plage le matin, il n'y a personne en début d'après-midi, et le monde arrive à partir 3 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures du matin. Et donc, les vacances de masse aujourd'hui, c'est les vacances nocturnes pour beaucoup. Pour beaucoup de vacances nocturnes, il suffit d'aller regarder l'arc méditerranéen pour s'en rendre compte. Alors, du coup, quand on va à la montagne, il faut quand même commencer par se lever vers 7 heures du matin, parce que si on n'est pas en randonnée à 9 heures, parce que dès lors qu'on rentre vers 16 heures, et donc finalement, ça se passe entre 9 heures et 16 heures, et ça veut dire qu'il faut se lever tôt. Et donc, c'est incompatible, quelque part, avec la vie moderne. Et en particulier de nos enfants. Moi, j'ai des enfants, j'ai même des petits-enfants, et je vois leur régime de vie. Ils ont un régime de vie, vous soulignez tout à l'heure, le manque de sport. Ben, le manque de sport, il est lié aussi à ce régime de vie qui a complètement été modifié. Donc la question, une fois de plus, pour vous et pour monsieur, c'est quelle est votre analyse de tout ça ? Parce que vous vous posez la question, quelque part, de vendre quelque part la montagne l'hiver avec une certaine désaffection, alors c'est un peu controversé, mais surtout essayer de vendre la montagne l'été. Et je pense qu'il y a un espoir pour vous. Parce que quand on regarde l'évolution climatique, on s'aperçoit que l'arc méditerranéen, le climat de l'arc méditerranéen va se sahéliser. C'est-à-dire dans 25, 30, 40 ou 50 ans, aller en vacances sur la Côte d'Azur, ça sera plus du tout rigolo. Et donc forcément, toute cette population va monter vers la montagne. Alors, je ne dis pas, Val d'Isère ne deviendra pas les Antilles, mais peut-être qu'effectivement, attirer du tourisme à la montagne, c'est peut-être un challenge auquel vous êtes confronté.
Le tourisme à la montagne, il y a d'abord les locaux à la montagne, sans parler des touristes. Déjà, je redis, il y a 60% des jeunes de Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy qui ne mettent pas les pieds en montagne une fois dans l'année. Pourquoi ? Parce que ce qu'on leur propose, ça ne correspond pas à leur culture. Je veux dire, je peux vous faire le parallèle. La semaine dernière, il y avait en grande pompe une signature avec la province de Hebei en Chine qui organise les Jeux Olympiques. Tout le monde dit qu'il va y avoir 300 millions de skieurs. Pour votre petite information, il y a 70 millions de skieurs à peu près en ce moment sur l'Europe. Et là, ils annoncent 300 millions de skieurs chinois. Il y a eu 3 tables rondes. Je vous fais le parallèle parce que c'est quand même exactement la même thématique. Sur ces 3 tables rondes, tout le monde était là à dire oui, c'est un marché émergent qui va être énorme. Une personne sur 6 dans le monde est chinoise. Un touriste sur 10. Bon, donc on sait que le potentiel il est là. N'empêche que tout le monde rêve qu'ils vont venir faire du ski. Et puis dans ces 3 tables rondes où il y avait quand même des personnes éminentes de l'industrie du ski, des fabricants de dameuses, de télésièges, je les passe. On a été 2 à détonner. Nous, ça fait 9 ans qu'on a organisé une formation pour des Chinois. Je fais ce parallèle, vous allez comprendre pourquoi. Et ça fait 9 ans qu'on dit, et quand les gens rêvent sur le marché chinois, qu'on leur dit, si vous leur proposez du ski tel qu'il est fait aujourd'hui, les Chinois ne viendront pas. Et j'expliquais que les Chinois, on a fait tout un travail l'année dernière, par exemple, à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, sur la notion de bien-être pour des Chinois, qui n'est pas la nôtre. Donc leur rapport à l'activité, leur rapport au corps, leur rapport à la nature est fondamentalement différent. Une définition d'un Chinois du tourisme, il vous dit, le tourisme, c'est le lien entre la nature et la société humaine. On est à des années-lumière de l'usine à gaz de Val d'Isère ou des autres. Là. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'autre personne qui est montée au créneau, c'est le patron de Wetzé, Wetzé Décathlon, la branche ski, qui dit, bah, écoutez, nous, on a 300 magasins en Chine qui font du ski et je peux vous dire que le ski ne décolle pas. Et pire, les Chinois, quand ils ont essayé une fois le ski, ils disent jamais plus. Donc tout ça pour vous montrer que là, en ce moment, c'est pareil. On spécule sur ce marché émergent qui est effectivement énorme en proposant encore des activités qui ne correspondent pas à leur culture. Je n'ai pas la réponse à votre question, je ne sais pas. Parce qu'on ne se pose pas la question. Pour le moment, on essaye de dire, et encore une fois, à Génération Montagne, la semaine dernière, tout le monde disait il faut ramener les jeunes à faire du ski. On ne dit pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait essayer de penser autrement et comment ?
Il faut prendre un micro.
Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça ne m'empêche pas de faire le lien entre la société Fosum, qui est chinoise, comme vous le savez, qui a pris des participations dans la Compagnie des Alpes. Donc ce n'est pas un hasard si Fosum a pris des participations. Elle a pris, il est chez Peugeot aussi, hein, mais il est dans la Compagnie des Alpes.
Et oui.
Non, en fait, ça, juste parce que vous parliez du réchauffement climatique ou. Ça deviendrait invivable dans le sud de la France et que les gens remonteraient. On ne sait pas tout ça si ce serait vrai, etc. Mais le sujet exactement aujourd'hui, c'est la question de la montagne Eldorado. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en fait, et tout est focalisé sur le tourisme. Mais différentes études prospectives démontrent que la montagne demain, en fait, elle devient hyper attractive, mais pas pour faire du tourisme, tout simplement pour y vivre. Et en plus, on peut pas mettre beaucoup de monde en montagne, même pour y travailler, pour y vivre, etc. Et c'est là où peut-être son futur Eldorado, ce sera ça, quoi. Donc, comment on conciliera ça avec l'industrie du tourisme, enfin du ski, tout ça. Bon, ce sera peut-être marginal, mais je pense que c'est sa plus grande chance dans le cadre du réchauffement climatique, c'est surtout par rapport au fait qu'elle sera hyper attractive pour simplement y habiter.
Moi, je crois assez à ça. Hein. Moi, je crois assez à ça. La pollution va faire un attrait sur ces zones. Et puis, on parlait de l'Autriche. L'Autriche, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'un Autrichien, il a 5 métiers. Il travaille à la station, mais il est maçon, mais il est agriculteur, et il est hébergeur, hôtelier. Et donc, une intégration complète, on n'a pas fait d'usine à neige. Il n'y a qu'en France qu'il existe la Plagne, les Arcs, Val Thorens, les Menuires. Ça n'existe pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais fait ça, ça part des villages. Kitzbühel, 850 mètres d'altitude. Et les gens sont tous avec 3 ou 4 boulots. Ils ont tous le soir des lits, des vacanciers à qui ils donnent le forfait, qu'ils accompagnent sur les pistes. Une autre façon de faire les choses comme on aurait dû toujours les faire. On a parlé du plan neige. Parce que l'État en France est omniprésent et veut tout décider. Une erreur fatale. Fallait jamais faire plein de neige. Fallait garder la Clusaz, fallait garder le Grand Bornand, fallait garder là où il y avait des stations, on avait su faire. Mais pourquoi on a inventé ça ? L'État, plan neige. Ça a fait la révolution entre deux amis, l'architecte Chappie et Michaud. Ils étaient connus à la guerre. Oh, ça va être très long, je vais essayer de faire vite. Ils s'étaient connus à la guerre, ils avaient dit, ils étaient tous les deux skieurs, on va faire des stations. Et ils sont très bien entendus, ils ont créé Courchevel. L'architecte disait, jamais un immeuble au-dessus de la taille d'un sapin. Et ça a marché comme ça, formidable. Ils ont dit, on va reproduire, deuxième étape, les Menuires. Parce que Michaud était ingénieur et allait à organiser le SEATM et l'intervention de l'État en montagne. Et ils ont décidé de créer des stations, donc de cibler les plus beaux endroits. Quand ils sont arrivés aux Menuires, le fait de monter la route là-haut, les coûts, il fallait faire 12 000 lits pour équilibrer. Et les deux amis se sont battus. Parce qu'il fallait monter en hauteur. La caisse des dépôts est arrivée et tout. On sait faire et c'est parti. On a fait les Menuires. Les deux amis sont battu. Chappie est allé enseigner en Italie comment on doit faire les stations, est allé en Autriche expliquer comment on doit faire les stations. Il n'est plus jamais revenu en France. Il a écrit un bouquin, lisez-le. Il vous explique tout ça. L'architecte, il s'appelle. Et donc, nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait l'Autriche. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, on est obligé quand même de gérer les sept lots. On ne va pas arrêter. Il y a des gens qui ont créé des appartements. On fait fonctionner ça. Faisons confiance au marché. Encore un tout petit peu, je parle. Faisons confiance au marché. Les sept lots, tous les appartements à vendre. Un jour, il y a une juge qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Marchand, reprenez mon appartement, j'en ai marre de cette station, c'est nul. Je lui dis, oui, 30 000 francs, votre appartement, je l'achète. Elle me dit, vous êtes un escroc. Je dis, Madame le juge, je ne vous ai rien demandé, moi. C'est vous qui me proposez votre appartement, je vais être obligé de le rénover. 30 000 francs, je vais perdre de l'argent. Donc, c'est le prix. Ah, ben, j'ai jamais vu ça, je vais le vendre. J'ai dit, oh, quelle intelligence pour une juge. Il y a une transaction par an, il y a 800 appartements à vendre, vous allez le vendre dans 800 ans. C'est intelligent, ça, hein. Elle m'a dit, ah, le petit con, elle est partie. Eh bien, le marché est arrivé à reprendre ça. J'en suis pas revenu. Défiscalisation en Maurienne, l'appartement se vend 150 000 euros. À partir des années 2000, le marché se retourne et il se fait 100 transactions par an. Les gens vendent un appartement, 40 000 euros. Et le type dit, acheter défiscalisé 150 000 euros. Non, j'ai acheté 40 000 euros, je vais le refaire tout neuf et je vais venir. Et je connais le produit maintenant. Je suis content, je vais skier. Et donc, le marché a réabsorbé ça. Donc, c'est fou. C'est fou. Je suis premier surpris, moi. Je croyais qu'il fallait imploser ces barres. J'arrête.
S'il y a une défiscalisation, c'est pas que le marché. Il y a aussi l'État.
L'État. Non, je ne vais pas parler de l'État.
Bon.
L'État, 22 200 milliards de dettes. On a parlé 2 heures. La charge de la dette. En 2 heures, uniquement les intérêts, parce qu'on ne la remboursera jamais, la charge de la dette, en 2 heures, c'est 10 millions.
Vous savez
en 8 ans, c'est 1 milliard. En 8 jours, c'est 1 milliard. En 1 an, c'est 46 milliards.
Vous savez que le secteur privé, ménage plus entreprise, est plus endetté que l'État. Hein.
Exactement, bien sûr. Non, mais c'est l'État. L'État est impotent, il n'a plus d'argent, il ne peut rien faire. Que des conneries.
Une question.
Oui, monsieur Marchand a commencé à répondre à ma question. Mais j'avoue que j'étais resté sur ma faim. Il avait expliqué que le chiffre d'affaires qui était généré par les stations en Autriche était un petit peu supérieur à celui qui était fait en France. L'Autriche a moins de 9 millions d'habitants. Donc, en gros, on en est à 8 fois plus. Hein. Bon. On a eu jusqu'à présent des débuts de réponse. Enfin, de mon point de vue, ça a été des débuts de réponse. Madame a expliqué que. En Autriche, c'est-à-dire les gens du village qui travaillaient ici et qu'on ne faisait pas venir des chômeurs de Bretagne ou du nord de la France. Bon, d'accord. On comprend bien les gens qui habitent ici, ils peuvent plus facilement que des gens qui viennent de l'extérieur expliquer que tel et tel sentier mène à tel et tel endroit, que ça c'est joli, que ceci, que cela, je veux bien. Hein. Vous-même, madame, vous avez expliqué ensuite que question accueil. Hein, on n'était pas franchement bon en France, pas franchement bon en montagne. Et ça, c'est vrai. Je me suis beaucoup promené dans le monde. Bon, on est considéré comme étant quasiment des catastrophes mondiales, quoi, en termes d'accueil. N'empêche qu'avec ces deux raisons-là, même avec ce qu'a dit M. Marchand après, ça me laisse quand même un petit peu sur ma faim. Alors, est-ce qu'on pourrait creuser un petit peu et que je puisse partir d'ici en disant finalement, si l'Autriche... ça marche très bien. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça marche bien en Autriche, et en tout cas beaucoup mieux qu'en France? Et on pourrait comparer, puisque finalement on est sur le même massif, on pourrait comparer un petit peu avec l'Italie, avec la Slovénie ou avec la Suisse, puisque finalement ils sont sur les mêmes montagnes. Voilà, ma question c'est ça.
Je pense que déjà, l'Autriche, en dehors de la montagne, ils n'ont pas grand-chose. Donc déjà, aujourd'hui, par exemple, globalement, non, c'est pas méchant, c'est une réalité. J'adore l'Autriche, mais en Autriche, il n'y a pas de mer. Déjà, pour commencer, il n'y a pas de grande ville. Aujourd'hui, le tourisme urbain est en train de revenir très, très fort. Hein, je veux dire, dans les pratiques touristiques, la ville redevient très, très importante. J'ai plus les chiffres en tête. Donc, je pense que économiquement aussi, l'Autriche, quand on regarde sur quoi elle est bâtie, il y a beaucoup moins de diversité économique que ce qu'on peut avoir nous. C'est beaucoup plus des petites entreprises. C'est pas, Donc, dire pourquoi l'Autriche marche, moi, je travaille énormément avec les Suisses depuis 15 ans sur la problématique du tourisme. Les Suisses ont exactement la même problématique que nous. Et pourtant, c'est aussi un pays de montagne, mais c'est un pays qui a quand même quelques grandes agglomérations, Genève ou autres, mais ils souffrent aussi de ce manque de renouvellement générationnel.
Ils sont comme la France.
Ah oui, exactement. Et c'était pire, ça a été pire parce qu'ils ont eu une politique de ce qu'on appelle les lits froids. Alors les lits froids, c'est des gens qui achètent pour investir et pour se créer du capital et qui ne louent pas leurs biens, ce qui fait que ça ne rapporte économiquement rien à la destination touristique. Et jusqu'à ce qu'en Valais, par exemple, ils sortent une loi limitant les constructions et limitant les lits froids parce que c'était devenu... au niveau économique, vraiment une perte sèche, quoi. Puis vous arrivez dans une station, tout est fermé, même en période de pointe, parce que les gens ont acheté juste pour faire de la spéculation foncière. Donc, ils ont un autre problème qui est l'intervention de l'État. Alors, peut-être que M. Marchand me reprendra, mais une station comme Grand Montana, qui est quand même un des fleurons des stations suisses, elle est au bord de la... Vous devriez y aller, peut-être, d'ailleurs, parce qu'elle est au bord du gouffre. Des remontées mécaniques qui sont complètement désuètes, un parc qui n'a pas été rénové. Voilà, les investissements ne sont pas faits régulièrement. Et du coup, bah, quand il faut tout changer d'un coup, ce n'est pas possible. Surtout quand vous avez, à un moment donné, quand même un chiffre d'affaires qui baisse, quoi.
Est-ce que le prix est plus bas en Autriche ?
En Autriche, peut-être que M. Marchand peut répondre.
Oui, il est nettement plus bas. Donc, d'abord, vous n'avez pas le droit de... Vous allez dans un hôtel, vous n'avez pas le droit de prendre 2 jours. On va vous obliger à prendre 6 jours. Hein, ils ont la chance d'imposer à la clientèle de prendre un forfait 6 jours. Vous ne pouvez pas prendre un forfait de 2 jours. C'est comme ça. Il y a une consommation. Donc, sur le prix journée, vous allez dire c'est plus cher que chez nous. Sur la semaine, il n'y a plus rien à voir. C'est beaucoup moins cher. Un type qui va skier en Autriche ne revient plus jamais skier chez nous. Il y a une espèce de concurrence fatale. Et cette concurrence de l'Autriche, elle s'est faite dans les 25 dernières années. Parce que aussi, comme la Suisse avait un retard d'investissement, on était quand même dans les très bons au moment de la constitution des stations. Ces espèces de masses de stations comme La Plagne et tout, on était vraiment leader. On était en avance en investissement, on inventait des choses. Mais... les Autrichiens sont partis après sans faire nos erreurs. Ils ont réajusté, même dans la construction même des remontées mécaniques, ils sont en avance sur nous. Le premier constructeur mondial, c'est Doppelmayr. Et donc, ils sont partis après et ils ont fait mieux. Ils sont partis après, ils ont fait mieux. La Suisse, est-ce qu'ils vont redémarrer ? Voilà, l'intervention suisse est beaucoup plus moins forte. De l'État est beaucoup moins forte qu'en Autriche et qu'en France. Et donc, la Suisse n'arrive pas actuellement à s'en sortir. Les fluctuations de monnaie ont fait que, depuis 2 ans ou 3 ans, c'est le marasme dans les stations suisses.
Il faut prendre un micro parce qu'on enregistre.
Ce n'est pas la même chose dans tous les cantons. Mais la France, ce n'est pas... Les théories de Marchand, c'est tellement divers, méfiez-vous. Moi, je donne une expérience, c'est une petite vision des choses. Je n'ai pas la science infuse, oui. Je fais part d'une expérience. Oui. En France, il y a des choses extraordinaires. La Bresse, dans les Vosges, 8,4 millions de chiffre d'affaires, 900 mètres d'altitude, 1300 mètres le point culminant. Donc, on trouve des bijoux en France. L'Anse-en-Vercors, le maire veut arrêter le ski alpin à l'Anse-en-Vercors. Et il y a un gars qui, avec les remontées mécaniques que je démonte, vient les chercher, les sables, les refait neufs et remonte la station un peu plus haute, refait tout. Christian Collavet, responsable des services techniques de la mairie, parce que la maire ne veut plus s'en occuper, il recrée lui-même la station. Et quand il n'y a pas de neige, il fait des routes, il fait le clocher. Une économie sensationnelle, l'économie à suivre. Mais la France, c'est ça. Qui parle ? La Compagnie des Alpes. Le directeur de Val Thorens, mon copain, dont je ne dis pas de mal, lui, parce que c'est le meilleur, mais bon, c'est les gens... Non. Le directeur de l'Office de tourisme, l'exploitation de Val Thorens, qui est un modèle en Europe, la plus grosse rentabilité qui dépasse Ischgl en Autriche, c'est Val Thorens. Donc ça, c'est Val Thorens, un modèle du genre, d'un visionnaire, et qui a fait... qui est, dans tous les classements, la première station d'Europe.
Et quel est le prix d'un forfait à Valto ?
C'est très bien placé. Non, c'est très bien placé. Ça augmente depuis quelques années. Oui, mais il y a pas mal de prix déclinés. Les gens qui ont un forfait en Maurienne ont accès à Val Thorens sur un jour, qui achètent une semaine. Il y a beaucoup de choses, pas
si,
mal.
Si c'est 50 euros, vous mettez 4 personnes, on se rapproche quand même des 200, vous avez la moitié.
Mais vous ne payez pas.
La moitié des Français gagnent moins de 1700.
Non, mais on est d'accord, mais vous ne payez pas 50 euros à Val Thorens si vous venez 6 jours. Vous vous intégrez là aussi dans des forfaits, dans des tours opérateurs qui fait... C'est différent, c'est différent. Le mélangez pas le ski journée, le ski de séjour, qui est un vrai apporteur d'affaires, qui est compliqué. Comment ?
Il doit quand même y avoir moins de 10% des Français qui skient.
Mais on est d'accord là-dessus. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Eh bien, on descend... On descend, voilà, on était, dans les belles années, on était 10, on est plutôt près de 7% de skieurs en France. Et je ne sais même pas si on ne cache pas un peu les chiffres, c'est difficile de savoir. On le voit par la baisse des journées skieurs, on le voit, on le sait. On compense par les prix. On compense par les prix. Les chiffres d'affaires ont progressé, ah oui, mais les journées skieurs, oh là là, les journées skieurs, mais on n'en parle pas trop. Donc on baisse, on a de moins en moins de gens qui skient. On skie de moins en moins, les appareils sont tellement plus puissants. Quand vous faites un télésiège 6 places 5 fois dans la journée, ça suffit. Les gens ne me suivent plus. On a fait des espèces de domaines immenses, mais vous n'arrivez plus à suivre. Moi, je skie 3 heures, j'en peux plus. Hein?
Donc. Oui, je voulais juste rebondir avant de te donner la parole, cher collègue. Aujourd'hui, il y a un Français sur 3 qui part l'hiver et il y a 2 Français sur 3 qui partent l'été. Ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres qui nous sont donnés. Dans les 1 Français sur 3 qui partent l'hiver, il n'y en a que 40% qui vont en montagne. Alors vous allez me dire, c'est les destinations lointaines, parce que ça, on l'a entendu dans les stations, ouais, on a de la concurrence, c'est pas cher de partir en Tunisie ou de partir. 6% qui partent dans les destinations lointaines. Les autres, ils partent, je pourrais vous montrer, ils partent dans la famille, ils partent dans la campagne, ils partent au bord de la mer aussi, ils partent dans les villes. Hein, c'est ce que ça, encore une fois, le tourisme urbain. Donc, le côté financier, même les derniers chiffres qu'on a eus, nous, c'est 9,2% de la population qui part au ski. Mais qui nous disent que c'est un véritable parcours du combattant. C'est-à-dire que partir au ski, en dehors que ça coûte cher, vous prenez le risque de vous retrouver coincé sur l'autoroute. C'est quand même assez incroyable, quoi. Je veux dire qu'au stade où on en est, vous arrivez, alors vous pouvez passer une nuit dans un gymnase, vous arrivez dans la station, il faut que vous alliez chercher votre forfait. Après, il faut que vous trouviez votre appartement. Après, il faut trimballer les gosses. Enfin, je veux dire, c'est parcours du combattant. Regardez les fronts de neige, comment ils sont foutus. Enfin, je veux dire, les mamans avec leurs poussettes qui attendent le premier qui a fait les premiers cours de ski, on se demande comment ils se font pas trucider, quoi. Enfin, je veux dire, il y a toute une organisation quand même à repenser aujourd'hui, quand même. Hein.
Vous avez dit 9,2% des Français.
Micro. Je voulais faire répéter à madame que 9,2% des Français partaient au ski. Ce n'est pas du tout ce que Marchand a dit.
Mais, oui, non, mais attention, les skieurs, on parle d'où des skieurs. Il y a plein de gens qui arrivent chez nous qui ne skient pas.
Je pensais bien qu'ils partaient au ski. Je sais bien qu'il y en a qui ne skient
pas. D'accord.
Il y a en période de janvier, je n'ai plus les chiffres, mais c'est énorme de gens qui ne font pas du ski pendant la période creuse. Et aujourd'hui, les skieurs, comme on l'entendait nous, de notre temps, c'est 17%. Qui font du ski quasiment une partie de la journée. Après, les gens, ils vont faire une journée de ski où ils zappent, ils vont faire autre chose, ils se partagent le forfait à deux. Enfin, il y a tout un système qui s'est mis en place, pas que pour des raisons, encore une fois, pas que pour des raisons économiques.
Oui, tout d'abord, une toute petite question. Ah, pardon. Non, allez-y. Non, tout d'abord, une toute petite remarque anecdotique concernant Val Thorens et puis la Frappna. Si à la Frappna, vous pouviez faire en sorte qu'on puisse skier à Val Thorens dans ce site qui est grandiose, sans avoir de la musique électronique dans les oreilles, ça serait quand même vachement bien, quoi. Première chose. Deuxièmement, j'aimerais bien savoir, au niveau de l'implication du Conseil départemental de la Savoie, du Conseil général de la Savoie, sur l'économie du sport. Moi, j'ai toujours entendu dire, depuis que je suis gosse, que, par exemple, Courchevel avait été construit avec les impôts des Savoyards. Qu'est-ce qu'il en est exactement et en quoi le Conseil général est encore impliqué avec le S3V, avec des stations voilà.
Super, super compliqué votre question. Faut pas faire de raccourci.
J'attends beaucoup de vous.
Le département a mis de l'argent, mais on a gagné beaucoup aussi, puisque la valorisation des terrains à Courchevel permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut, tant qu'on peut vendre des terrains. Et le département et le dé. Mais bien sûr, sur la source tarie, mais ça a donné une manne énorme, et le département avec ça a été royal, parce qu'il se servait de ça pour aider tout le monde, pas que Courchevel. Et donc ça a été un retour formidable qui est en train de se tarir, et qui se tarie, comme toujours quand on subventionne, en perdant les notions de marché. Et donc Courchevel peine par un retard d'investissement énorme. Courchevel est une station qui a vieilli, qui a énormément de retard d'investissement. Hein, par rapport à des stations comme Val Thorens, où tout est neuf. Val Thorens, ils peuvent rester 15 ans sans investir, ça ne se verra pas. Hein, le Conseil général est encore beaucoup impliqué à Courchevel dans la création de la SEM. Il la tient, il fait des avances en compte courant, il cautionne des emprunts, et la SEM a beaucoup de mal à équilibrer tous ses comptes. Mais il y a les recettes qui vont avec. Le département a aussi la société qui exploite Val Thorens, c'est devenu privé, c'était une SEM. Les privés, par le biais de la Compagnie des Alpes, sont rentrés au capital, puis sont ressortis, et c'est devenu une SA privée, hein, la CETAM. Mais le département a gagné quand même 49, a gardé quand même 49. Il n'a plus le pouvoir, mais il a 49%. Alors qu'une SEM, d'habitude, on est au-dessus de 40%. C'est 49% permet d'aider les autres. Les royalties versées à ce qu'on appelle, ça vient de changer, non, mais Savoie Station Participation, SSP, permet d'aider les petites stations. Il y a quand même des organisations qui sont performantes, hein, où il y a une espèce de retour de cette manne, et donc c'est bien.
Madame.
Ouais, deux choses. Une question par rapport à ce que vous dites jusqu'à présent. On a beaucoup parlé du ski, de l'hiver. La montagne, c'est aussi l'été. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Moi, je suis savoyarde. J'ai rêvé gamine en lisant Frison Roche de montagne. Le rêve, c'est ce qui m'a amenée au ski, d'ailleurs. Tardivement, je n'ai pas appris à skier.
Avant 20 ans.
Non, j'ai skié à 25 ans avec mon gamin. Non,
normalement, on ne skie plus.
Si, je suis désolée. J'ai appris à skier à ce moment-là, et j'avais dans ma tête les rêves d'avant. J'ai marché en montagne avec mes parents, et c'était du rêve. On n'offre plus de rêves maintenant. En tout cas, l'hiver, on offre du fric, on offre de la consommation, on offre des soirées, on offre du festif, on offre du Facebook, Instagram, machin truc, tout ce que vous voulez, des choses qu'on va mettre sur les réseaux, mais on n'offre pas du rêve. Il y a peut-être aussi toute une réflexion à avoir de ce côté-là. On l'avait retrouvé un petit peu avec la montagne l'été, mais qui est aussi parfois en train de devenir un peu bizarre. Quand on randonne et qu'on se bagarre sur un chemin de randonnée avec un trailer qui trouve qu'on se pousse pas assez vite, et puis un cycliste, un VTT qui... il y a un tas de choses qui ont changé. Et c'est vrai que moi, toute cette partie-là qui était le fondement de la montagne, la beauté, le calme, l'effort, le partage, le lien social, on a de la peine à le retrouver.
Ça existe encore.
Non, mais voilà.
Je pense que, effectivement, tout à l'heure, monsieur a souligné qu'on faisait des usines, enfin, qu'on faisait des supermarchés à la montagne. Aujourd'hui, on est confronté à une vraie problématique qui est que les gens viennent chercher de plus en plus de contacts et d'expériences. Tout le monde parle de l'expérience client. Voilà. Et que, de l'autre côté, on a des grands groupes qui, eux, sont de plus en plus gros. Donc, moi, je leur dis souvent, ça va être difficile pour un grand groupe de faire de l'expérience. C'est le petit hôtelier qui, lui, tout le monde, est évidemment tombé sur les Airbnb ou autres, mais ceux-là, ils sont en contact avec le client et ils savent ce que veut vraiment un client. Aujourd'hui, je ne sais plus, il y a quelques années, aujourd'hui, là, cette année, je n'ai pas les chiffres, mais encore l'année dernière et l'année d'avant, il y avait quasiment 50 entreprises de petite hôtellerie qui fermaient dans les Savoies, chaque année. Parce qu'ils ne s'en sortent plus. Les gars, ils font tout. Ils font le ménage, le café, des investissements, on leur demande de mettre leurs trucs aux normes. Enfin, je veux dire qu'ils ne s'en sortent pas, ces gens-là. Après, ils ont un site internet, ils sous-traitent avec quelqu'un, ils n'arrivent pas à le tenir à jour parce qu'ils travaillent 15 heures par jour et même plus, ces gens-là, en période de saison. Sauf qu'eux, ils savent vraiment ce que c'est qu'un client qui arrive et ce qu'il vient y chercher. Donc, il y a un décalage aujourd'hui qui se fait, et on parlait de l'Autriche. L'Autriche a un accueil extrêmement familial, c'est des entreprises familiales. Nous, on a perdu ce côté, et les gens qui essayent de maintenir ça, ils sont vraiment confrontés à des problèmes économiques de rapport temps-prix qui est tout simplement pas gérable, quoi. Il faut être un peu timbré pour garder encore des entreprises comme ça, quoi. Des petites entreprises. Donc, aujourd'hui, on est dans ce décalage où je viens, j'ai envie qu'on me parle pour moi et non pas comme n'importe qui, et qu'on s'occupe de moi, qu'on soit attentif, que j'ai des difficultés pour me déplacer. Et puis, de l'autre côté, on a des entreprises qui sont à une méga échelle et qui ne peuvent pas se faire ce type d'accueil individualisé. Donc ça, c'est aussi un vrai problème aujourd'hui.
Moi, je voudrais peut-être rajouter quelque chose concernant la culture. En Autriche, j'ai rencontré beaucoup de gens, encore l'année dernière, qui trouvent génial, ce sont des jeunes, j'insiste sur le côté jeune, vieux, etc., qui vont s'arrêter, monter 1500 mètres, aller manger dans une ferme où il y a un véritable accueil, et redescendre le soir à la frontale, et ils trouvent ça génial. C'est une question de culture qui est très partagée en Autriche et recherche une certaine qualité de l'accueil. Je pense que chez nous, je ne suis pas sûr qu'on retrouve encore ça. Et l'Autriche vit de ça. Il y a un certain nombre de cantons suisses qui sont exactement sur la même longueur d'onde. Il y a plein de refuges qui, pendant la saison de ski de randonnée, sont de nouveau occupés et animés par les agriculteurs qui, l'été, montent à l'alpage avec leur... Et ça, on ne l'a plus chez nous. Avec leurs troupeaux, pardon.
Si, on a tout ça. Alors moi, je ne suis pas d'accord. On est embrumé complet par le gros de l'activité qui est donc ces usines à ski, mais je vous garantis qu'au Sept-Lot, hein, des exemples que je connais bien, il y a des gîtes, déjà on fait des gîtes, ils reçoivent des skieurs, mais c'est tout petit, mais c'est quand même la solution. Je disais à mes salariés qui se plaignaient, monsieur Marchand, faites des lits, je dis jamais. C'est nous qui allons payer les loyers, on va se ruiner. Et donc, mais vous, imaginez un studio, recevez, vendez, mais ça se passe comme ça. Vous ne voyez pas tout ce travail énorme. Les gens de la vallée font des studios et reçoivent des skieurs. Comment on tournerait, sinon on aurait fait faillite? Ça ne peut plus fonctionner, notre système. Hein, nos immeubles sont tellement laids. Chaque fois que je montais au Sept-Lot, je disais, mais non, mais c'est pas possible, il faut imploser. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne quand même par des gens bien qui reçoivent des gens qui reviennent à chaque fois. Ça marche aussi, mais c'est pas du tourisme de masse, c'est du tourisme à l'autrichienne. Il est chez nous, c'est des petites pointes, mais ça existe, sauf que c'est noyé dans une masse de business. Vous les voyez arriver les samedis de février, c'est la folie, quoi.
Monsieur attend depuis
un bon moment. Oui. Tout à l'heure, avant l'interruption, je voulais intervenir sur l'enneigement artificiel, enfin, ou l'enneigement de culture. Parce que, bon, moi, j'ai travaillé au département pendant longtemps. Je m'occupais notamment de Courchevel et des Trois-Vallées quand c'était une régie directe. Et donc, je travaillais en liaison directe avec le directeur général des services. Donc, je connais assez bien les problèmes de gestion des remontées mécaniques sur Courchevel et sur les Trois-Vallées. Mais justement, au début, quand il y a eu la période de manque de neige que vous évoquiez là, dans les années 85, 90, enfin le pire c'était dans les années 90, mais il y a eu presque une décennie où il y avait de la neige qui manquait, notamment dans les stations moyennes. Je voulais dire à ce sujet que l'enneigement automatique qui était lancé dans des grandes stations, au départ, on ne pensait pas qu'on pourrait le développer autant, notamment dans les petites stations, parce que techniquement, on avait peur que ça soit pas assez, il n'y ait pas assez de froid, tout simplement, parce que les premières usines d'enneigement automatique, il fallait qu'ils fassent 0 degré, enfin entre 0, moins 2 et plus 2. Voilà. Et donc, maintenant, les techniques ont changé. Il y avait ça, et il y avait aussi la peur d'avoir un sol pas assez gelé et que la neige, même artificielle, même dure, ne tienne pas. Et donc, au départ, il y avait eu aussi d'autres idées pour essayer de provoquer des chutes de neige. Il y a eu notamment une étude faite par le département de la Savoie, je me souviens, parce que c'est moi qui avais fait le secrétariat de cette étude, pour voir s'il n'était pas possible de provoquer artificiellement des chutes de neige naturelles en envoyant de l'iodure d'argent dans les nuages comme ça s'est fait, effectivement, notamment en Israël, pour l'eau, pour faire des, ça a bien servi pour les kolkhoz, notamment, mais aussi aux États-Unis, vers les Rocheuses, il y a eu des expériences qui avaient bien marché pour les chutes de pluie. Par contre, pour les chutes de neige, c'est beaucoup plus difficile. Alors, une anecdote, c'est qu'on avait confié cette étude à un représentant d'un organisme qui s'appelle le Groupement national d'études des fléaux atmosphériques, ce qui était un peu inquiétant. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, effectivement, c'est l'organisme qui s'occupait d'envoyer justement de l'iodure d'argent ou enfin, dans des canons anti-grêle, d'envoyer des sortes de suppositoires dans les nuages pour éviter, pour protéger les cultures. Et donc, c'est le même organisme qui faisait cette étude. Et on a fait une étude préliminaire, bon, je ne veux pas être trop long, mais où on s'est aperçu que ça coûtait beaucoup trop cher si on voulait faire une étude plus sérieuse, plus affinée sur ce sujet. Parce qu'en plus, il ne suffit pas d'envoyer dans les nuages, de provoquer des précipitations. D'abord, il faut qu'il tombe de la neige et pas de la grêle ou de la pluie. Et surtout, comme dans la chanson de Boris Vian au sujet de la bombe atomique, il faut que la neige naturelle ainsi formée tombe au bon endroit, c'est-à-dire sur les versants nord, là où on fait du ski, et pas ailleurs, pas en plaine, pas sur des versants sud, etc. Donc le projet était abandonné. Mais c'était quand même assez intéressant parce que c'était une tentative de vouloir un petit peu maîtriser des phénomènes climatiques, ce qu'on ne sait pas faire, qui a toujours été un mythe et plutôt un sujet de science-fiction ou de bande dessinée, de vouloir être maître du monde, etc. Et ceci dit, je vois le lien avec la neige artificielle, c'est que quand même la neige artificielle, c'est aussi de la neige créée artificiellement, comme son nom l'indique. Enfin, on appelle ça neige de culture, etc. Or, la question que je me pose, c'est que comme on a réussi maintenant à faire massivement de la neige artificielle, on déplace de l'eau dans les montagnes quand même d'une manière relativement importante. Alors, c'est évoqué tout à l'heure par rapport aux besoins en eau pour la population. Et c'est vrai, ça peut être vrai aussi en hiver dans les stations, comme il y a des pics de population importants dans les grandes stations, par rapport aux besoins en eau. Mais il y a aussi, moi je me pose aussi la question par rapport au phénomène que vous évoquiez du réchauffement climatique et de la sécheresse qu'on peut avoir l'été, etc. Si ce déplacement d'eau, alors je sais bien que l'eau, elle revient, la neige artificielle, après elle fond, elle revient dans le circuit naturel. Il y en a une partie qui est évaporée, mais une partie, enfin ça, vous savez ça mieux que moi. Mais est-ce que si massivement on déplace trop d'eau, je sais que c'est une question, je me souviens.
Donc, si on déplace trop d'eau, est-ce qu'on perd de l'eau ?
Non, est-ce qu'on ne risque pas de menacer des équilibres écologiques de la montagne un petit peu ? Voilà, à c'est plutôt ma question.
Non, mais en deux temps aussi avec ce cas-là, parce que peut-être que vous voudrez répondre après sur la question écologique, je me disais simplement que les quantités d'eau. En fait, elles sont infimes en réalité par rapport à ce qui tombe. Le Conseil général aussi, à une époque, je me souviens, ils avaient essayé de quantifier la quantité d'eau qui pouvait tomber sur la Savoie en un an. Ils se sont mordus les doigts, c'est impossible à calculer, mais c'est des quantités très très importantes. Et au final, effectivement, celle qui est utilisée pour la neige de culture, ça avait été estimé, je ne sais plus, à moins de 1%, quelque chose comme ça. Mais la question après, c'est la question, pas de la quantité, mais effectivement des déplacements, etc. Il y a qu'une seule. En fait, elle est déplacée que d'une seule façon. C'est que lorsque l'eau est éjectée de la buse, le processus fait qu'après, donc, elle tombe sous forme de neige en dessous. Mais là, il y a à peu près, en gros, ça tourne entre 5, voire moins, jusqu'à 30% d'évaporation. Donc l'eau repart. Et là, effectivement, il se peut que, suivant les conditions météo, elle finisse par sortir du bassin versant et tomber sur celui d'à côté. Bon. Mais bon an, mal an, à une échelle, à une grande échelle spatiale, etc., tout se rééquilibre. Bon, donc, en tout cas, à ce niveau-là, on n'a jamais réellement vu de conséquences, sauf encore, c'est possible, sur des journées particulières, à un moment donné, voilà, précis, sur un lieu précis, on cumule toutes les pressions, etc., et on sait que c'est comme ça qu'on fabrique des catastrophes, ben, c'est un peu ça, et là, effectivement, on peut avoir quelque chose. Sur le milieu naturel, je crois qu'effectivement, il y a eu des progrès qui ont été faits Il y a d'énormes progrès qui ont été faits, et notamment sur les débits réservés, des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a une vision qui est plus large. Et puis, c'est posé la question, alors votre question là sur le dur d'argent, bon, je ne savais pas du tout que ça avait été fait. Aujourd'hui, les agriculteurs essayent justement d'arrêter de prévenir la grêle, notamment dans la combe de Savoie. Ils ont envoyé cette année, je ne sais plus combien de ballons ils ont fait exploser, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un seul épisode de grêle de l'année, mais il est fort possible, d'après Météo France, que même sans envoyer des ballons, il n'y en aurait pas eu non plus. Mais on ne le saura jamais. Mais ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Bon. Mais c'est peut-être une sécurité. Et par rapport aux températures qui augmentent alors qu'il faut une certaine température pour fabriquer de la neige, effectivement, encore une fois, ça, en gros, au-dessus de 1500 mètres, où se situe à peu près l'isotherme, donc il faut quand même qu'il y ait des températures négatives. Mais comme l'a dit effectivement M. Marchand, aujourd'hui, enfin, je ne sais plus, mais on peut atteindre 60, il suffit d'avoir 75 heures avec des températures en gros à moins 4. Autant vous dire qu'on les a assez vite, hein, 75 heures, ce n'est pas beaucoup. Avant, on tournait à 150, après 100, encore moins. Donc les techniques s'améliorent. Il y a tout un tas de physiciens qui font des thèses sur cette production-là, etc., pour améliorer encore les choses. Et j'ai l'impression que effectivement la progression technologique, elle est peut-être plus rapide, en tout cas elle va à peu près à la même vitesse que le réchauffement des températures, donc bon an mal an, tout ça s'équilibre, et ce qui fait que en dehors des mois de novembre, on a d'énormes inversions de température, mais qui sont pas forcément liées au changement climatique, et où il fait 20 degrés plutôt 10 à 15, ou en tout cas 10 degrés à 1500 mètres, en dehors de ces périodes-là, on trouvera toujours. Au-dessus de 1005, il faudra attendre plusieurs dizaines d'années avant qu'on n'arrive pas à trouver les 75 heures.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Un petit mot et ensuite nous allons conclure.
Sur la neige artificielle, la neige de culture, et c'est quand même pas neutre pour le milieu naturel qui nous intéresse, pour les raisons suivantes. C'est que déjà, le domaine skiable de France a fait une très belle publicité en disant la neige de culture, c'est simple, c'est de l'eau et de l'air, ça retourne au sol. C'est pas tout à fait exact, il y a de l'évaporation, monsieur vient de le dire, il y en a une 30% qui partent dans l'air, donc on ne récupère pas toute l'eau. Deuxièmement, quand on a besoin d'eau en plein milieu de l'hiver, que l'on remplit une retenue collinaire qui est devenue vide parce qu'on a pompé ou bien que l'on prend l'eau au fil des torrents, on assoiffe un milieu qui, au milieu de l'hiver, est généralement très sec, ce qui peut aboutir pour un torrent donné à mettre le torrent en glace. Quand le torrent est en glace, il n'y a plus de vie aquatique. Comment ? Il n'y a plus de poissons. Et la vie aquatique, ce n'est pas que des poissons, il n'y a que des bactéries. Donc il y a certains risques. Un autre risque quand même qui existe, c'est que la neige artificielle, la neige de culture, est nettement plus lourde que la neige naturelle. La neige naturelle, c'est 50 à 100 kg au mètre cube. La neige artificielle, c'est de l'ordre de 500 kg au mètre cube. Ça veut dire que, d'ailleurs, un mètre cube d'eau fabrique 2 mètres cubes de neige artificielle. Cette neige artificielle, qui est plus lourde, elle est bonne peut-être pour les compétitions dans certains cas, mais elle fond plus lentement. Ça veut dire qu'il y a un retard de végétation au printemps dans les zones qui ont été enneigées artificiellement. Ce n'est pas bon pour la végétation naturelle. Et ensuite de ça, cette neige lourde a tendance à imperméabiliser le sol, si bien que à la place de la neige artificielle, de nos cultures, on a souvent des zones devenues imperméables. Voilà quelques inconvénients quand même de cette neige artificielle.
Nous allons terminé, je vais vous demander de conclure en quelques mots. De conclure, qu'est-ce que vous retenez, que pouvez-vous retenir, de vous faire passer comme message ou votre impression ou
quelque chose d'assez conceptuel, peut-être comme ça. Bon, parce qu'on était beaucoup dans les cas concrets, etc. Mais moi, je trouve c'est intéressant de voir en fait. On a vu en fait. Comment le sujet du tourisme en montagne, du ski, de la Savoie, etc., est aujourd'hui sous tension, même s'il y a des zones qui s'en sortent hyper bien, etc. Mais on a vu un peu la complexité du sujet, on a beaucoup de facteurs qui jouent, internationaux, locaux, etc., sur l'environnement, enfin tout un tas de choses. Et puis, pour le ramener au sujet du changement climatique, en fait, on voit que on a une évolution qui vient un peu titiller et qui vient mettre en avant certaines fragilités, certaines difficultés, les gens qui ne veulent pas changer, d'autres qui savent parfaitement s'adapter. En fait, le changement climatique, c'est intéressant dans le sens où il agit aujourd'hui sur la ressource neige, il agit sur la ressource en eau, il crée plus de risques naturels en haute montagne, il fait fondre les glaciers, etc. Et tout ça, effectivement, c'est pas forcément très bon pour le tourisme. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui sont capables de s'adapter, d'inventer de nouveaux produits, etc. Et c'est pas ceux qui se plaignent. Mais en fait, voilà, c'est les choses. Il y a une sorte de coévolution comme ça qui se passe. Donc on entend ceux qui se plaignent parce que effectivement, ben voilà, ça touche leur situation. D'autres qui vont trouver d'autres moyens de se développer. Et aujourd'hui, on est bien incapable d'imaginer effectivement comment le tourisme pourra se développer en montagne avec cette équation qui fait que le ski cache tout le temps en fait d'autres enjeux. On n'arrive pas à réfléchir à autre chose. Enfin, c'est assez marrant. Et c'est vrai que le but, c'est pas d'arrêter le ski, mais c'est pourquoi continuer en même temps le ski, etc. Et de plus en plus, ces réflexions, elles s'impriment maintenant, surtout en moyenne montagne. Par exemple, si je prends les Bauges, où on commence à intégrer cette question de la transition. Bon, alors comment on va gérer cette transition, etc. On le voit à l'heure actuelle, avec l'actualité, que c'est pas forcément quelque chose qui est ancré, même chez nos dirigeants, l'accompagnement dans cette transition, etc. Mais c'est pourtant comme ça que ça devrait fonctionner, et ça commence déjà à arriver sur certains territoires. Donc on dit, ok, on donne un peu, mais nous, on va essayer de changer, etc. On se donne 10 ans, il y a des plans qui commencent à se faire. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré toute cette complexité, toute cette coévolution, à force, il y a des nouveaux modèles, je pense, qui vont se développer. Et même bien qu'on soit incapable aujourd'hui d'imaginer, notamment avec le réchauffement climatique, mais pas que, comment tout ça sera dans 20 ou 30 ans, moi, je pense que l'attractivité de la montagne, elle va continuer. Et il y a de fortes chances... toutes choses égales, par ailleurs, surtout qu'on enlève le ski, que ça finisse plutôt bien et que la montagne s'en sorte. Ça peut donner un point de vue optimiste.
Il a déjà dit beaucoup de choses. Hein. Je voudrais juste dire une chose, c'est que l'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige. Alors, les années où il n'y a pas de neige, tout le monde pleure parce que voilà, on n'a pas de neige, donc on ne travaille pas. Et l'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige. Et puis... il y a des sociétés de remontée mécanique qui étaient à moins 3, moins 5% et des restaurateurs qui étaient à moins 30%. Donc vous leur dites, bon, alors il y a beaucoup de neige et ça ne marche pas encore. Là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben oui, mais tous les week-ends, il a fait mauvais temps, donc les gens ne montaient pas. Et puis ils ne mangeaient pas en terrasse, donc ça a été un manque à gagner énorme. Bon, voilà. Je pense qu'on a parlé du réchauffement climatique. Moi, le seul message que je voulais faire passer ce soir, c'était de dire, le réchauffement climatique, c'est une chose, mais le changement sociétal, c'en a une autre. Et je pense que celui-là, on n'en parle pas assez et on ne le prend pas assez à bras-le-corps pour dire mais comment on réinvente finalement notre société de demain et comment on réinvente cette société de loisirs et de rêves. Je partage complètement votre point de vue. Dans l'imaginaire, ce qui commence à nous faire aller dans un endroit, c'est l'imaginaire. Quand on planifie ses vacances, on rêve, on se voit, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas. C'est cet imaginaire. Et aujourd'hui, l'imaginaire de la montagne, il n'est plus là. Donc, il faut trouver d'autres images, trouver d'autres choses qui vont accrocher.
Je crois que vous nous avez convaincus quand même.
Oui, ben c'est ça. Il faut bien finir par une note d'optimisme, effectivement. On va trouver des méthodes. L'homme, c'est ça, il s'adapte. On lui trouve un filon, il fonce dedans à fond, il en fait trop. Forcément, on est allé beaucoup trop loin, beaucoup trop fort, mais la montagne reste belle, le produit reste beau, et les capacités humaines de s'adapter, même dans des situations très difficiles, elles existent toujours. Gardez ça en vue, sinon c'est pas possible. C'est plus difficile quand on devient vieux, parce qu'on se dit « Ah, mais avant, c'était avant, non. » Mais on s'en fout maintenant, il faut que ça continue.
Oui. Eh bien, moi aussi, j'ai été étonné un petit peu, presque ému, d'entendre vos témoignages qui disaient que les émotions que vous aviez connues en montagne autrefois, et d'entendre aussi qu'aujourd'hui, on ne les retrouve pas, semble-t-il. Vous ne les retrouvez pas. Alors, je crois qu'il faut, comme tu disais, il faut les chercher. La FRAPNA propose quelques pistes. J'ai intérêt à vendre ma boutique, à savoir le silence, la beauté des paysages, la qualité de la nuit et d'autres choses que l'on ne connaît pas, mais qui sont à trouver, de manière à ce qu'il y ait encore de l'émotion quand on va en montagne.
Alors, je voudrais... Bon, je voudrais terminer en disant qu'effectivement, la montagne a certainement un avenir. Et en fait, on aurait peut-être dû plus se poser explicitement la question de comment on fait pour vivre en montagne. Voilà. Et peut-être qu'il y a un avenir pour vivre en montagne. Mais nous allons être obligés d'arrêter. Je vous remercie de votre présence. Je vous rappelle qu'il y aura un nouveau café scientifique au mois de janvier et ça portera sur la météo. Et il va y avoir un site internet. Nous allons, au bout de 18 ans, avoir un site internet.